¿Se ve la hoja?
Ahora sí, ahora no.
Ahora sí, ahora no. Bueno. Ok. Salut.
Salut. Bonjour.
Merci d'être là, Aurélien. La première chose qu'on aime vous demander dans cette série web, l'interview, c'est que vous vous présentiez. Voilà, que vous présentiez un peu.
Ouais.
Voilà, avec le nom.
Ouais. Ben bonjour, je m'appelle Aurélien Berland. Je vis dans un petit village d'Occitanie, du sud de la France, et où je me suis installé il y a une quinzaine d'années avec des amis. On était, j'ai plutôt grandi à Paris puis dans les grandes villes. J'avais fait tout un parcours universitaire, mais nos convictions politiques partagées nous ont plutôt donné l'envie de partir de la capitale de Paris pour pouvoir développer une manière de vie plus de vivre plus cohérente avec nos convictions, nos idées, sachant que ben en ville c'est hyper dur de ne pas se retrouver en fait dépendant de tout un système capitaliste, industriel, qui est destructeur, et de se retrouver en fait à manifester le samedi contre le système qui nous fait vivre du lundi au lundi suivant en fait, et donc de sortir de cette schizophrénie qui nous paraissait très importante, cette schizophrénie des gens de gauche qui dénoncent quelque chose dont ils sont par ailleurs totalement dépendants. Et donc il y avait l'idée que peut-être qu'à la campagne ce serait plus facile de trouver des formes d'autonomie, d'être un tout petit peu moins dépendant de ce système, pas de l'abolir hein, bien sûr, mais au moins de vivre de manière plus cohérente avec nos idées et d'avoir des formes de vie plus riches, plus riches au sens intellectuel, culturel, politique, social. Et voilà. Et donc là, à ce moment-là, j'avais mis un point un petit peu terminal à ma carrière académique. Moi, je suis parti juste après avoir fait une thèse sur le monde industriel, sur la révolution industrielle. Et j'ai vécu là-bas. Donc c'était un projet collectif. On est en propriété collective, une coopérative d'habitants en quelque sorte. Et on s'est mis à développer des formes d'autoproduction, de commencer à faire un potager, à faire des récoltes, à nous chauffer avec le bois qu'on réussissait à couper nous-mêmes, etc. À construire, réparer, bricoler notre maison nous-mêmes pour vivre avec le moins d'argent possible. Bien sûr, j'avais quand même besoin d'argent, donc je continuais à faire ce qu'on appelle des vacations. Des cours à l'université ou bien des traductions. Et j'ai vécu comme ça jusqu'en 2022, où finalement on m'a proposé un poste à l'université de Toulouse que j'ai accepté pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il commençait à y avoir des enfants et puis un projet de construire une ferme dans le village dont je vous parle. Quand j'étais à Paris, en fait, j'étais parmi les différentes actions militantes que j'avais, les différents engagements politiques, il se trouve que on a avec un certain nombre d'amis, on a commencé à s'intéresser très tôt à la diffusion d'un certain nombre d'outils, de technologies numériques qui nous semblaient particulièrement dangereuses, notamment la biométrie. Parce que c'était des instruments en fait de contrôle, de surveillance de la population et qui se mettaient en place insidieusement et qui se mettaient en place aussi en partie avec la collaboration plus ou moins consciente des consommateurs, des gens eux-mêmes. Je pense notamment à toutes les formes de géolocalisation permises par les bandes GPS, les téléphones portables, les systèmes de quand même de fichage absolument génial que constituent Facebook ou les réseaux sociaux. Et donc on s'est un petit peu concentré sur cette question-là parce qu'on voyait qu'il y avait un manque à gauche, il y avait aucune réflexion à gauche sur les dangers potentiellement totalitaire ou en tous les cas liberticide du développement de ces technologies qui étaient souvent vues par un certain nombre de camarades comme plutôt potentiellement émancipatrices. Et Quand on entendait ça, ça nous effrayait parce que nous, on voyait la mise en place insidieuse d'un système de surveillance généralisée et personne ne s'y intéressait, et voire même la plupart des gens étaient enthousiastes de ça. Et donc, ça nous a poussé à écrire, à faire un premier travail. À cette époque-là, je participais aux activités du groupe Marcuse et on avait déjà fait un livre sur la publicité au début des années 2000, de la misère humaine en milieu publicitaire. Et là, on s'était dit, bon, on va faire un deuxième essai collectif sur les raisons pour lesquelles on pense que c'est important de s'opposer à l'informatisation du monde, au développement des moyens d'identification électronique tels qu'ils se faisaient à l'époque en France. Donc ça a donné notre deuxième livre qui s'appelle La liberté dans le coma, paru en 2013. Et donc c'est un essai plutôt où on analyse l'infrastructure technologique et ce que ça fait à notre sentiment de liberté et la manière dont on pourrait éventuellement s'opposer au déploiement de cette infrastructure technologique de surveillance totale. Bon bah forcément on était obligé de réfléchir à c'est quoi la liberté en fait. On voyait bien qu'on se retrouvait à défendre tout en étant à gauche en fait une vieille conception plutôt libérale de la liberté, l'inviolabilité de la vie privée. Une conception de la liberté qui n'était pas seulement libérale, mais qui est beaucoup associée au libéralisme. Et on voyait que, bon, bah, à gauche, il n'y avait personne pour la défendre, mais à droite non plus, les libéraux s'en foutaient complètement. Mais c'était pas tout à fait satisfaisant parce que, on le dit d'ailleurs dans le livre, cette conception-là, l'inviolabilité de la vie privée, c'est important. C'est dans le contexte d'État moderne potentiellement totalitaire, c'est important. On ne peut pas abandonner cet héritage qui nous vient en fait des révolutions du XVIIIe siècle et des luttes contre l'absolutisme monarchiste. On ne peut pas l'abandonner, cet héritage-là, aux libéraux. Mais c'est pas ça non plus pour nous la liberté. Et donc j'ai commencé à me dire, bon, il faut réfléchir à ça. D'autant plus que on arrivait quand même, ce livre nous aboutissait à mettre en évidence un paradoxe terrible. On vit dans un monde que l'on décrit souvent comme libéral, néolibéral, ultralibéral, que ce soit pour s'en féliciter ou pour le dénoncer, alors que ce monde-là est en train de piétiner, de bafouer le centre, le cœur même de la conception libérale de la liberté, qui est l'inviolabilité de la vie privée. Donc il y avait quelque chose d'éminemment paradoxal. Et puis bien sûr, quelques mois après la parution de notre livre, il y a eu l'affaire Snowden, toutes les révélations de Snowden qui confirmaient complètement ce dont on avait l'intuition. Et donc à partir de là, moi je me suis dit, bon, il faut quand même creuser cette histoire de liberté. Il y a un flou, il y a une confusion totale, alors que c'est un concept majeur de notre langue politique, un concept qui est aussi au cœur des aspirations socialistes, communistes, qui se voulaient des projets émancipateurs, donc qui apportent la liberté, et une notion aussi qui est au cœur de l'anarchisme, de tous les projets libertaires et de tous les courants libertaires dont nous étions extrêmement proches. Mais il y avait un flou, une confusion, et il fallait le faire. Moi, j'avais fait des études de philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est quoi? C'est la réflexion sur les mots les plus simples de notre langue, ceux dont on ne peut pas se passer, mais qu'on a bien du mal à définir quand on demande ce que c'est. L'exemple canonique, c'est le temps. Tout le monde sait ce que c'est que le temps, mais dès qu'il faut définir ce que c'est que le temps, on a bien du mal. Et ben la liberté, c'était la même chose, une notion philosophique massive. Et là, on se retrouvait dans une situation où il y avait un flou, une ambiguïté totale, le monde libéral qui bafoue le principe de la liberté libérale, et le fait que c'était pas encore le cas à cette époque-là, mais maintenant c'est devenu le cas, le fait qu'aujourd'hui le mot liberté, il a été réapproprié par l'extrême droite, ce qui est quand même un scandale, parce qu'à l'origine, la liberté, c'était l'étendard de toutes les luttes contre les formes de domination sociale. L'étendard des esclaves qui voulaient être libres, être affranchis, l'étendard des serfs au Moyen-Âge qui demandaient d'être émancipés du servage, puis l'étendard des révolutionnaires en 1789, vivre libre ou mourir, l'étendard de la révolution mexicaine, puis de la révolution espagnole, Tierra y Libertad, Terre et Liberté, qui a donné le titre du livre. Et voilà, donc, on était face à un rapt sémantique, on était dans une situation complètement orwellienne, où finalement, ce sont les formes d'extrême droite, les partis autoritaires, qui se retrouvent à parler de liberté et à se réapproprier ce mot. Et face à ça, bah, je voyais bien qu'à gauche, il y avait plein de gens qui étaient prêts à se débarrasser de ce mot-là, en disant « non, mais il faut pas parler de liberté, c'est un concept de droite, c'est une valeur bourgeoise, etc. » Moi, je pense que ça, c'est un désastre. Ça, c'est une manière de se coucher devant la dépossession. C'est une manière d'être dépossédé de notre vocabulaire. Par contre, il était évident qu'il fallait repenser la liberté, parce que dans la manière dominante dont on avait pensé la liberté jusqu'à présent, eh ben, il y avait un problème. Et il y avait notamment un problème lié à la situation écologique. Parce que à cette époque-là, je m'intéressais déjà suite au livre, c'était déjà au cœur de notre pamphlet contre la publicité, la question écologique. Ce livre-là, il s'appelait "Comment le monde se meurt de notre mode de vie". Donc, j'avais bien une sensibilité vers ça. Et dans les lectures que je faisais en termes d'écologie politique à l'époque, eh bien, il y avait un certain nombre d'auteurs qui soulignaient le fait que l'idée de liberté a accompagné le processus de développement industriel qui nous conduit dans l'impasse écologique et sociale dans laquelle on est en train de s'enfermer aujourd'hui. Donc bon, bah, il y avait beaucoup de réflexions autour. Voilà, il faut dépasser l'idée de liberté comme arrachement à la nature, l'idée que la liberté impliquait la lutte contre la nature. C'était au cœur de plein de discours socialistes ou libéraux, hein, au 19e siècle. La liberté impose pour être libre, il faut dominer la nature, etc. C'est, voilà, il y avait plein de liens. Et il y avait aussi ce fameux texte de Dipesh Chakrabarti qui expliquait que le palais des libertés modernes est fondé sur un usage croissant de combustibles fossiles. Donc là, on voyait bien, il y avait cette idée-là qu'il y avait un lien entre l'aspiration à la liberté et le développement industriel, capitaliste, technologique qui nous conduit dans l'impasse actuelle. Et donc, il fallait clarifier ça. Il fallait clarifier ce concept de liberté qui se retrouvait au croisement de problématiques majeures. D'une part, le désastre socio-écologique et d'autre part, le tournant autoritaire et voire totalitaire de nos sociétés dites libérales. Et pour ça, je me suis lancé dans une enquête qui a été très longue parce que pour dissiper le flou et la confusion, il faut prendre le temps. Ça a été très long aussi parce que par ailleurs, je découvrais le monde de l'autonomie matérielle et donc je passais pas mes journées dans une bibliothèque. En fait, je travaillais la nuit et donc je me suis lancé dans la lecture d'abord de tous les textes libéraux pour essayer de comprendre si derrière cette idée d'inviolabilité de la vie privée, il n'y avait pas quelque chose d'autre qui nous permettrait de comprendre pourquoi, en dépit des révélations de Snowden, il n'y a pas eu de réaction massive de la population, alors que, comme si en fait les gens continuaient à se sentir libres malgré la conscience du fait qu'on est surveillé en permanence et qu'il y a plein de dispositifs pour influencer nos comportements. D'où est-ce que ça vient? Comment expliquer ce paradoxe en fait? Pourquoi on continue à se sentir libre alors que on est les héritiers de la guerre froide et de l'idéologie libérale occidentale de la guerre froide où les raisons pour lesquelles l'URSS était condamnable, c'était la présence du KGB qui surveillait tout le monde et tout le monde. Pourquoi d'un seul coup cette question-là n'est plus importante? Pourquoi les gens acceptent quelque part d'être surveillés en permanence et se sentent malgré tout libres? Il y avait quelque chose un mystère pour moi. Il y avait cette problématique-là, plus la problématique écologique. Il fallait clarifier les choses. Et donc, je me suis lancé dans ce travail-là. Alors, quand on s'intéresse à la question de la liberté, dans mes premières lectures, quasiment le béaba de la question de la liberté, notamment dans la philosophie politique, c'est de dire qu'il y a deux grandes conceptions, deux grands modèles de liberté dans l'histoire. C'est beaucoup lié à un auteur qui s'appelle Benjamin Constant, qui avait mis ça en évidence, à un auteur libéral du début du 19e siècle, qui a écrit un texte qui s'appelle « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » en 1819. Mais c'est devenu une idée de base en fait, et parce qu'elle est très convaincante, parce qu'elle permet de poser un certain nombre de choses très importantes, et voilà. Donc l'idée de Constant est de dire il y a deux modèles de liberté. Il y a le modèle des anciens, et par ça il veut dire le modèle surtout des Grecs de l'Antiquité. Et les Grecs de l'Antiquité, pour eux la liberté c'était la démocratie directe au sens de la participation directe des citoyens au processus de prise de décision politique. Et donc, c'est l'idée de partage du pouvoir, que tous les citoyens ont le droit de participer à la mise en place des règles qui les concernent tous parce qu'elles régulent les rapports qu'il y a entre eux. Alors bien sûr, quand on dit ça, il faut tout de suite préciser quand même des choses, hein. J'ai bien dit les citoyens et pas les citoyens et les citoyennes. Les citoyens pour les Grecs, c'était des hommes nés dans la ville, dans la cité dont ils sont dépendants. Donc ça excluait ce qu'on appelait les métèques, les étrangers. Et bien sûr, c'était des hommes libres, donc pas des esclaves. Donc en réalité, les citoyens, la démocratie directe antique, c'était le privilège d'une entre 10 et 20% de la population en fonction des cités, et le reste de la population était totalement exclu, quand bien même ils étaient concernés par les prises de décision politique des hommes qui avaient le droit de pleine citoyenneté. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, le modèle antique. La liberté, c'est la participation politique directe. Et Benjamin Constant pointe quelque chose d'assez intéressant, d'assez convaincant, au moins dans une première lecture, on va dire, c'est que les modernes, ils ont une toute autre idée de la liberté. Ils ont une toute autre idée de la liberté parce qu'ils vivent dans un contexte qui a fondamentalement changé. Ce que veulent, ce que les modernes assimilent à la liberté, c'est, on va dire, faire ce que je veux. La possibilité de faire ce que je veux sans aucune contrainte, ingérence extérieure. Et ça redéfinit la liberté, ça la fait passer de la sphère publique, la liberté, participation ou partage du pouvoir, ça se joue dans la sphère publique, mais faire ce qu'on veut, dans la sphère publique, on sait qu'il y a plein de règles qui nous empêchent de faire ce qu'on veut, et puis voilà, il y a plein de choses qu'on va pas faire en public, forcément. Et donc ça, il y a un glissement de la liberté, du concept de liberté, de la sphère publique dans l'Antiquité vers la sphère privée. C'est pour les modernes, la liberté, elle est individuelle, elle est de faire ce que je veux, et ça implique qu'elle se limite en fait à la sphère privée. Et la liberté, donc, ce sera ce que Constant dit, l'indépendance dans les jouissances privées, et plus précisément les garanties que l'État va poser pour permettre, pour garantir à chacun et à chacune le droit de faire ce qu'il a envie dans son espace privé. Et donc, en gros, la liberté des modernes, c'est l'inviolabilité de la vie privée. C'est-à-dire, c'est le fait de bénéficier d'un certain nombre de droits qui garantissent la sphère privée comme inviolable, donc comme espace dans lequel personne, ni l'État, ni les entreprises, ni les autres en général, n'ont le droit de mettre leur nez pour vous forcer ou vous dissuader de faire quoi que ce soit. Dans votre espace privé, dans votre vie privée, vous avez le droit de faire ce que vous avez envie. C'est vos oignons, c'est la religion que vous pratiquez, c'est la manière d'éduquer vos mômes, c'est les types de relations sexuelles que vous avez, ou c'est la question de savoir si le samedi soir, vous avez envie d'aller participer à une discussion publique sur le collapse écologique en cours, ou bien d'affiner votre collection de timbres-poste. Voilà, la liberté des modernes, en gros, c'est ça, c'est on a le droit de faire ce qu'on a envie dans notre vie privée. Et alors, en effet, c'est très convaincant parce qu'on voit bien que voilà, il y a cette dépolitisation et individualisation de la liberté, elle correspond bien à quelque chose d'assez massif tendanciellement. Il y a plein d'auteurs qui ont souligné ça, qui n'étaient pas du tout des libéraux, comme Castoriadis aussi, il parlait de la privatisation de l'individu dans les sociétés de consommation. Donc, plus d'un siècle après Benjamin Constant, il identifiait bien le même processus de dépolitisation de la liberté, d'individualisation de la liberté. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait exact, qui correspond bien à quelque chose, mais en même temps, il faut se calmer, parce que le propos de Constant, c'était clairement d'essayer de ringardiser les désirs de participation politique, mais les désirs de participation politique, ils sont maintenus. La révolte des Gilets jaunes, c'est un exemple majeur de, voilà, ce désir de participation politique directe, ce refus de la démocratie représentative, parce qu'en gros, l'inviolabilité de la vie privée, ça va avec l'état de droit et la démocratie représentative, et non pas avec la démocratie directe, des Grecs. Donc le propos de Constant, c'était quand même de justifier la démocratie représentative contre toute forme de démocratie directe, donc contre toute forme de participation populaire trop directe à la conduite des affaires de l'État. Et c'était clairement pour débarrassé de l'aile gauche. Il avait fait partie des gens qui étaient plutôt du côté des révolutionnaires en 1789, mais des révolutionnaires bourgeois, et il voulait donc en finir avec les sans-culottes, en gros. Enfin, c'est-à-dire, ben voilà, les sans-culottes, vous arrêtez de faire ça. Donc, on va essayer de ringardiser cette idée de participation directe et dire, mais non, les Français modernes, etc., ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se consacrer à leur collection de timbres-poste, faire l'amour, ou décider de savoir s'ils lisent un roman, s'ils regardent un film, ou s'ils vont faire une partie de tennis le dimanche. Voilà, ce serait ça, la liberté. Ça correspond à quelque chose, mais il y avait aussi une intention politique derrière. Mais néanmoins, l'idée qu'il y ait deux grandes conceptions de la liberté comme participation politique et la liberté comme protection de la vie privée, ça me semble quand même quelque chose de valable, même s'il ne faut pas voir ça en termes historiques d'époque, les anciens, les modernes, plutôt gauche, droite, ou bien bourgeoisie, classe populaire. Voilà, ben, au fur et à mesure de mes lectures, surtout de mes lectures des penseurs du libéralisme, je me suis infligé beaucoup de choses très très dures, hein. La lecture Locke, Adam Smith, Benjamin Constant, John Stuart Mill, ça va encore, mais alors Friedrich Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick et les libertariens américains, là, ça, c'était un peu dur, hein. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, derrière l'idée, derrière ou sous l'idée d'inviolabilité de la vie privée, il y avait une autre idée implicite dans les théories bourgeoises libérales de la liberté. Il y avait l'idée que être libre, c'est être libéré c'est être libéré des nécessités de la vie, c'est-à-dire des tâches liées à la subsistance qui sont généralement présentées comme pénibles et ennuyeuses, routinières, etc. Produire ses aliments et cuisiner produire ses aliments et cuisiner laver faire la lessive le ménage la vaisselle construire ou fabriquer sa maison, s'occuper des personnes dépendantes autour de nous, que ce soit nos vieux parents ou nos enfants en bas âge. Tout ça, ce serait on ne serait libre qu'une fois qu'on a toutes ces tâches qui sont derrière nous et qu'on peut enfin se consacrer à des activités plus intéressantes, plus passionnantes, la théorie, la politique, l'art, je ne sais quoi. Et donc être libre, ce serait être délivré des nécessités matérielles et sociales de la vie quotidienne, nécessité en un sens très relatif, c'est-à-dire au sens de toutes ces choses à faire qui sont tellement constitutives de notre mode de vie qu'on ne peut pas imaginer vivre sans qu'elles soient faites d'une manière ou d'une autre. Et ça, je me suis rendu compte que c'était au cœur de que c'était implicitement à la base des théories libérales de la liberté, et que ça permettait d'expliquer l'intérêt, la défense acharnée par les penseurs libéraux du marché, du principe du marché. Parce qu'il faut bien voir que le marché, c'est un système absolument génial dans les conditions modernes des sociétés modernes, donc dans le cadre de sociétés assez inégalitaire, voire de plus en plus inégalitaire, eh bien le marché, ça permet aux riches de faire aux pauvres ce qu'ils n'ont pas envie de faire eux-mêmes, mais qu'ils estiment indispensable que ce soit fait par quelqu'un. Et en fait, qu'est-ce que voulaient les propriétaires d'esclaves dans l'Antiquité? Eh bien, ils voulaient exactement la même chose. Ils disaient, d'ailleurs, les Grecs le reconnaissaient, la liberté, ça suppose d'être libéré des nécessités de la vie, et pour ça justifie l'esclavage. Qu'est-ce que faisaient les aristocrates au Moyen Âge? Ils étaient libérés par le servage de une série d'activités liées à la subsistance, notamment le travail de la terre, la production alimentaire, etc., mais aussi s'occuper des enfants avec les nourrices, etc. Ils étaient libérés de toutes ces tâches-là. Et en fait, les bourgeois modernes ne faisaient que la même chose que les propriétaires d'esclaves, les aristocrates propriétaires d'esclaves dans l'Antiquité et les aristocrates du Moyen Âge. Ils voulaient être libérés des nécessités matérielles de la vie quotidienne. Et le problème, c'est une fois que j'ai identifié ça, je me suis dit, waouh, là j'ai un truc, c'est intéressant, c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on voit en permanence en fait autour de nous, on s'en rend pas compte. Tout à l'heure, j'entre dans la ville de Barcelone, la première pub que je vois, c'était libérez-vous, obtenez exactement tout ce que vous désirez. conseguir exactamente lo que deseas. Mais conseguir, obtenez tout ce que vous désirez. Obtenez, ça veut dire quoi dans ce sens-là? Ça veut dire faire faire à d'autres ce qu'on a envie d'avoir, mais qu'on n'a pas envie de ce dont on n'a pas envie d'être chargé nous-mêmes. C'est exactement cette idée d'être libéré. Cette idée-là, elle est au cœur en fait de notre culture consumériste, des sociétés de consommation, et donc en fait, elle traverse l'histoire de manière absolument fascinante. Et parce qu'en fait, pour être libéré des nécessités de la vie quotidienne, en fait, il n'y a pas 36 solutions. En réalité, il n'y en a que deux. Soit on fait faire à d'autres personnes, soit on fait faire à des machines ou des robots. La première solution, c'est la solution de toutes les classes dominantes à toutes les époques, c'est de faire faire à d'autres personnes, ce que faisaient faire les Grecs, les nobles au Moyen-Âge ou les bourgeois. Or, faire faire, c'est quoi? Bah, c'est la formule même de la domination sociale, si on y réfléchit bien. Faire faire, ça présuppose qu'il y a une division entre ceux qui décident et qui font faire aux autres et ceux qui, les exécutants, qui doivent faire ce qu'on leur dit de faire. C'est rien de plus ça. Et en effet, quand on regarde l'histoire, tout simplement, toutes les minorités dominantes à toutes les époques se sont débarrassées, se sont exonérées d'un certain nombre de tâches liées à la subsistance et s'en sont déchargées sur les épaules des groupes qu'ils dominaient. Que ces groupes, ce soit les femmes recluses dans la vie domestique, que ce soit les esclaves dans l'Antiquité, que ce soit les serfs et les domestiques au Moyen-Âge, ou que ce soit les ouvriers et les salariés à l'époque moderne. En réalité, c'est le fil rouge de la domination sociale, c'est la définition même de la domination sociale. Et de ce point de vue-là, la seule nouveauté de la bourgeoisie moderne, c'est pas d'avoir universaliser la liberté, ça c'est les grandes déclarations de principe, voilà, on va reconnaître que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est d'avoir masqué cette aspiration à la délivrance qu'ils partageaient avec les aristocrates et avec les esclavagistes de toutes les époques, c'est de l'avoir masqué derrière le fonctionnement du marché qui, parce que il y a une apparence d'égalité et de liberté sur le marché, ça donne l'impression qu'on respecte la valeur de la liberté et de l'égalité comme valeur universelle, ça donne l'impression, alors qu'en fait le marché, comme je l'ai dit, c'est un merveilleux moyen de délivrance pour les gens qui ont de l'argent, de faire faire à d'autres ce qu'ils n'ont pas envie de faire eux-mêmes. C'est juste ça, et c'est là qu'on comprend en fait l'importance cruciale de la dimension économique dans le libéralisme même politique, le fait que la défense du marché est au cœur de toutes les théories libérales, parce que les libéraux étaient des bourgeois qui aspiraient exactement à la même chose que tous les aristocrates, dont ils aspiraient à prendre la place dans l'organisation sociale. Alors, la chose la plus étonnante, c'est que donc, bon, cette idée de délivrance, que j'appelle la liberté comme délivrance, être délivré des nécessités de la vie quotidienne, on la retrouve implicitement chez les théoriciens libéraux. Jamais explicitement. Explicitement, on a juste l'inviolabilité de la vie privée, mais dessous ou derrière, en fait, il y a toujours cette idée-là. Je donne plein d'exemples dans mon livre, qui montre ça très très clairement. Mais c'était donc purement implicite, personne ne s'en revendiquait parce que bon bah bien sûr on voit très bien si on le reconnaissait, on voit très bien la domination sociale derrière. Et la chose la plus étonnante, c'est qu'en fin de compte, à l'époque moderne, le seul auteur qui a explicitement défendu cette idée-là sous une autre forme, mais quand même, eh ben c'est Karl Marx. Karl Marx, c'était un grand auteur pour moi, une source d'inspiration majeure, parce que c'est un penseur du capitalisme, c'est un penseur matérialiste, moi je suis matérialiste, je suis anticapitaliste, donc pour lui, le communisme, ça devait être le résultat d'un processus d'émancipation du genre humain. Qui dit émancipation, dit liberté. L'émancipation, c'est le processus qui conduit à la liberté. Marx, il a jamais voulu vraiment définir ce qu'il appelait liberté. C'était pas son propos. Son propos, c'était de faire une analyse du système capitaliste, une critique de l'économie politique, et pas de commencer à clarifier le sens de tous les mots. mais néanmoins, il utilise de temps en temps le mot liberté. Et donc, comme tout grand penseur, bah, il avait envie de définir ce mot qu'il utilise, et c'est bien normal. Et donc, il donne quand même quelques définitions, notamment dans le Capital. Et dans le Capital, quand il définit, quand il parle de liberté, c'est notamment dans un passage où il oppose le règne de la nécessité au règne de la liberté. Le règne de la nécessité, c'est la sphère de toutes les activités sociales qui sont contraintes par la satisfaction de nos besoins immédiats, on va dire. Et le règne de la liberté, ce serait le règne des activités qu'on peut vouloir faire pour elles-mêmes, sans aucune contrainte, au-delà de toute nécessité, de toute contrainte. Les loisirs, on va dire, l'art, la théorie, etc. Et donc, il explique que la liberté ne se gagnera que dans la possibilité de réduire la sphère de la nécessité au minimum, et ça, c'est la réduction du temps de travail nécessaire. Et pour ça, il faut rationaliser au maximum le travail social, essayer de développer des moyens de dominer la nature pour nous délivrer tous collectivement de la nécessité, ou en tous les cas, essayer de limiter le maximum le temps dévolu chaque jour aux activités strictement nécessaires, donc liées à ce que j'appelle la subsistance. Manger, dormir, se chauffer, se nourrir, se vêtir, etc., etc. Donc, bah, c'est stupéfiant parce qu'en fait, on retrouve presque la même idée, enfin, on retrouve ce thème-là, le thème d'être libéré de la nécessité, c'était exactement la manière dont les Grecs, les aristocrates grecs, justifiaient l'esclavage. Les aristocrates grecs, eux aussi, ils le disaient explicitement. Pour être libre, il faut être délivré de la nécessité, et pour ça, il faut des esclaves, pas le choix. Et on retrouve ça au cœur de la théorie du penseur majeur de l'émancipation moderne. Donc c'était quand même un petit peu stupéfiant. Donc je me suis dit bon bah j'ai vraiment identifié quand même quelque chose d'important et qui nous traverse toutes et tous. Il faut le reconnaître en fait cette idée-là d'être d'une vie en tous les cas une vie astreinte à une vie où on passerait nos journées 12 heures par jour à faire que des activités liées à nos nécessités matérielles quotidiennes, à toutes celles que j'ai décrites toute la journée, ce serait une vie de labeur, ce serait pas tout à fait une vie libre. Donc cette idée, elle nous traverse toutes et tous, il faut le reconnaître. Elle est partout présente dans notre culture. On la retrouve dans plein de courants anarchistes, plein de courants socialistes, chez les libéraux, je l'ai dit. On la retrouve partout. Et pourtant, ben, il n'y a pas besoin de se casser la tête pendant des heures pour comprendre qu'elle est extrêmement problématique. On l'a vu. La première méthode, c'est pour être délivré des nécessités, c'est de les faire faire à d'autres. Donc c'est la domination sociale. Donc comment Marx pouvait imaginer, pouvait défendre ce projet-là? Il le défendait parce que la deuxième méthode qui existe pour être délivré des nécessités de la vie quotidienne, de toutes les tâches pénibles et routinières, eh ben c'est de se dire on va les faire faire aux forces de la nature et aux machines ou aux engins, aux dispositifs mécaniques que les forces de la nature peuvent activer, et on va se décharger donc sur des machines de toutes ces tâches pénibles. Et ça, en fait, ce projet-là, cette idée-là, elle vient pas de Marx. Marx la reprend à qui? Il la reprend au fondateur de la science moderne. Cette idée-là, la première fois qu'on la voit apparaître, c'est explicitement chez des gens comme Descartes, René Descartes en France, ou Francis Bacon en Angleterre, qui sont les pères fondateurs de la science moderne. Quand Descartes dit qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est dans l'idée de faire faire à ce qu'il appelle des artifices, ce que les gens riches de son époque faisaient faire à des artisans, c'est-à-dire leur faire faire les tâches pénibles. Et on retrouve la même idée aussi chez Francis Bacon de développer les connaissances scientifiques sur la nature pour améliorer nos instruments techniques et en quelque sorte créer une sorte de paradis sur Terre où on serait enfin délivré de la rareté, donc du besoin, et du travail nécessaire pour satisfaire nos besoins. C'est le grand projet de la technoscience moderne, faire une science utile, opératoire à la vie, qui permette de nous délivrer de tout ça. Et Marx est l'héritier de ce projet-là. Alors bien sûr, bah, c'est une promesse théorique fascinante, en fait, cette idée-là. Oui, on pourrait être tous délivrés du travail, de la rareté, enfin vivre dans l'abondance, avec soit le minimum du travail, soit aucun travail du tout, grâce à l'automatisation. Ce serait enfin la réalisation de ce qui est parfois présenté comme les rêves les plus immémoriaux de l'humanité qu'on voit dans l'image du Jardin d'Éden, de l'âge d'or chez les Grecs, du pays de Cocagne, au Moyen Âge. Ce serait vraiment voilà, ce serait le paradis sur Terre, hein. Ce que disait Bacon, il disait, grâce à la science et à la technique, on va réaliser le paradis sur Terre, on va faire descendre le paradis des cieux et on va le réaliser ici-bas. Et donc c'est une promesse fascinante, d'autant plus fascinante aussi pour les classes inférieures, c'est-à-dire celles qui ployaient sous le poids de leurs propres nécessités, et en plus des nécessités que leur imposaient soit les propriétaires des moyens de production, soit les maîtres, les esclavagistes, dont ils étaient les instruments. D'où l'enthousiasme, d'où la généralisation, l'universalisation de ce rêve de délivrance, ce que j'appelle la voie technoscientifique et industrielle de la délivrance. Mais ben voilà, en fait, cette belle promesse théorique, en pratique, elle bute sur des obstacles évidents aussi. C'est un petit peu étonnant que quelqu'un comme Marx ne les ait pas vus. Peut-être lié aussi au fait qu'il baignait dans un monde où tout le monde partageait cette idée-là et où tout le monde considérait que les progrès industriels avaient été tellement énormes en juste quelques décennies que bientôt ça allait être possible de réaliser le rêve de Descartes. Descartes, c'est 1637, Marx, c'est 2 siècles plus tard, et donc il y avait l'idée qu'on va bientôt réussir à ça. Il suffirait d'accélérer encore plus le développement techno-scientifique, ce que voulait Marx, accélérer encore plus pour pouvoir enfin réaliser les promesses visionnaires des pères fondateurs de la science moderne. Mais il y a des problèmes. D'abord, ce qu'on constate, c'est que l'exploitation de la nature, parce que c'est ça, la domination de la nature, ça veut dire l'exploitation de la nature, l'exploitation des forces de la nature, elle présuppose toujours, en première ligne, l'exploitation d'une certaine quantité d'êtres humains qui se retrouvent, en fait, oui, en première ligne, dans les mines, dans les usines, dans les plantations. Et en dépit, et c'est toujours le cas aujourd'hui, en dépit du fait que Descartes, c'était il y a 4 siècles, Marx, c'était il y a 2 siècles, et malgré les progrès inouïs qui ont été faits en termes de domination de la nature, de développement technologique et scientifique, eh bien, aujourd'hui encore, eh bien, l'exploitation de la nature, elle présuppose le fait qu'il y a des gens qui se retrouvent astreints à un travail d'esclaves aux quatre coins du monde pour que une minorité de privilégiés soit délivrée des tâches correspondantes. Donc ça, c'est le premier problème. Parfois, il y a des gens qui me disent oui, mais là maintenant, on a atteint le point où on va bientôt atteindre le point. C'est toujours la promesse, hein, la promesse de progrès. On va bientôt atteindre le point où on va pouvoir construire des robots qui vont fabriquer les robots, par exemple électroménagers, qui nous délivrent des tâches ménagères. Oui, mais bon, en fait, il faudra toujours des hommes pour fabriquer les robots qui fabriquent les robots qui fabriquent les robots. Il y a une régression à l'infini, mais il y aura toujours des gens qui seront en première ligne. Et puis surtout, en fait, tous ces merveilleux moyens techniques, tous ces engins, toutes ces machines qui nous délivrent, effectivement, faut le reconnaître, qui nous délivrent de tâches parfois extrêmement exténuantes. Hein. Par exemple, parmi les tâches, les corvées les plus pénibles à faire pour les paysans au Moyen Âge, il y avait bon bah les récoltes, les récoltes notamment les moissons des céréales. C'est un travail monumental. Récolter, moissonner le blé et le battage du blé, c'est des tâches extrêmement physiques, extrêmement dures. Donc ça, on en est complètement libéré par les moissonneuses-batteuses. L'autre corvée centrale au Moyen Âge, c'était les corvées de transport, en fait. Les serfs, ils étaient utilisés pour, après, une fois qu'on avait récolté le blé, etc., mais tout le reste, il fallait le transporter tout ça dans les caves du château, parfois faire des dizaines de kilomètres avec des charges de 20, 30, 40, 50 kilos. De fait, en effet, les machines qu'on a réussi à inventer grâce à la science, au développement technoscientifique moderne, nous délivre de ces tâches extrêmement pesantes. Il faut le reconnaître. Mais voilà, pour faire ces machines, il faut des quantités colossales de métaux. Et par ailleurs, pour faire fonctionner ces machines, une fois qu'on les a faites, et puis pour extraire en fait tous ces métaux et fabriquer les machines, il faut des quantités colossales d'énergie. Or, bah, maintenant, on sait que, d'abord, d'une part, ces métaux, en fait, il faut aller les chercher. Or, depuis l'invention de la métallurgie, il y a à l'âge de bronze, donc il y a plus de 5000 ans, l'extractivisme, l'extractivisme minier, c'est tout simplement l'activité la plus la plus prédatrice sur le plan social et environnemental. Il n'y a presque jamais eu dans l'histoire d'extractivisme minier sans qu'il y ait d'esclavage et sans qu'il y ait des catastrophes environnementales majeures, parce qu'en fait, il faut utiliser des acides, il faut utiliser de la chimie, il faut sortir des quantités de roches qui sont radioactives du centre de la Terre, etc. Il faut des quantités de bois colossales ensuite pour faire fondre tout ça. Il faut des quantités d'eau colossales pour raffiner le minerai, etc. Voilà, ça a toujours été le cœur du désastre environnemental depuis l'Antiquité. Ça a toujours été la sidérurgie et les activités minières. Et voilà, en fait, on est dans une situation aujourd'hui où il faudrait encore intensifier cet extractivisme pour réaliser ce rêve de délivrance. Or, le problème, c'est pas seulement que les ressources minières et énergétiques sont limitées, c'est surtout que les capacités d'absorption des écosystèmes, des pollutions liées à l'utilisation de ces métaux et des énergies pour faire fonctionner ces machines, eh ben, elles sont extrêmement limitées et on les a toutes dépassées aujourd'hui. Je pense bien sûr au CO2, mais ça va bien au-delà du CO2. C'est une loi générale. En fait, notre planète, notre petite planète fragile, n'est pas assez vaste, n'est pas assez puissante pour absorber les quantités colossales de pollution que tout ce système génère. Et ça conduit à quoi? Ça conduit au fait que ce projet de délivrance, il ne peut aboutir qu'à la situation suivante, où il y aura une minorité de privilégiés qui vont vivre dans des gated communities, très belles, avec des arbres, des pelouses, un environnement relativement sain, etc. Et qu'il y aura toute une partie de l'humanité qui se retrouvera à vivre dans des régions condamnées au statut de dépotoir, de poubelle écologique, contaminées d'innombrables pollutions bruyantes, sales, dont l'air est irrespirable, dont l'eau est imbuvable. Et c'est cette situation qui est déjà, en fait, qui existe déjà, qui ne va cesser de s'aggraver si on continue dans ce rêve, dans ce délire de délivrance. Donc, il faut le reconnaître, ce rêve fantastique de pouvoir vivre une vie intégralement délivrée des nécessités de la vie quotidienne. Un, il est basé sur la domination sociale. Et deux, il est basé sur la destruction de la nature. Et donc, il faut se libérer, il faut s'émanciper de cette idée-là qui a en fait une idée aristocratique qui s'est retrouvée chez les bourgeois, que les bourgeois ont repris en la cachant un petit peu et qui s'est retrouvée bizarrement au cœur des aspirations émancipatrice de la gauche. Il faut nous libérer à gauche de ça, et donc pour ça, il faut repenser la liberté. Je peux continuer encore. Je suis sûr.
Ouais, t'as envie de. Moi, avant peut-être de continuer, alors je l'ai écrit en espagnol, tu penses que ça vaudrait le coup? Il y avait cette phrase que tu as écrite dans le livre. Alors, je le traduis en lisant en espagnol. Paradoxalement, cette intensification du travail va alimenter le rêve de le réduire et même de l'abolir, alors qu'en réalité, il soumet les humains à la domination des organisations industrielles et aux oligarchies qui les dirigent. Enfin, ils soumettent encore plus, alors qu'on leur promet, un jour, vous travaillerez plus. Si tu veux revenir un petit peu, et après, tu continues, si tu veux, sur ce.
Alors, ce rêve, cette idée de délivrance, elle a été partiellement réalisée. Elle n'est pas complètement fantasmatique. On l'a vu avec l'exemple à des corvées dont on est effectivement délivré par notamment les moyens de transport modernes et industriels. C'est pas purement fantasmatique. Ce qui est fantasmatique, c'est l'universalisation possible de cette idée-là. C'est de rendre compatible l'idée de délivrance avec la promesse de liberté universelle, avec qui me semble moi qui voilà qui est une idée qui vient de l'Occident moderne et que je veux garder. Je fais une critique radicale de la modernité occidentale, mais sur le plan des technologies, du système économique et politique qu'elle a développé, mais au niveau de cette valeur au moins, eh ben, ça me semble un héritage qu'il faut conserver contre vents et et marées. Je suis un partisan de l'idée que tous les êtres humains sur cette planète sont libres et égaux, et non seulement en droit, mais ils devraient l'être en fait aussi. Et donc cette idée-là, voilà, elle est pas universalisable, mais elle a été en partie réalisée, quand même, on peut le dire, dans les pays du Nord par les sociétés de consommation. En effet, dans les sociétés de consommation, qui est là, on va dire le capitalisme avancé, la société industrielle pleinement développée, eh bien, ça s'est traduit par un mode de vie où on a recours, tout le monde a recours, le recours à des machines pour être libéré des tâches pénibles, quotidiennes, routinières de la vie quotidienne, c'est massifié, on dirait souvent démocratisé, j'aime pas ce mot-là parce que la démocratie c'est autre chose, c'est beaucoup plus intéressant ça, mais ça a été massifié, c'est-à-dire c'est devenu accessible à des pans croissants de la population, d'abord les classes moyennes supérieures, classes moyennes inférieures et même une partie du monde ouvrier. Les publicités d'ailleurs dans les années 50 aux États-Unis pour vendre des robots domestiques, c'était exactement ça, hein, c'était libérez-vous de vos tâches quotidiennes. Petite parenthèse, je me permets, le terme robot, ça vient d'un mot tchèque qui désigne l'esclave, le serf. C'est-à-dire, c'est même dans le vocabulaire, on retrouve cette idée-là. Donc, ça a été massifié, mais ça a été massifié sous une forme très particulière. Ce dont on est délivré, vraiment, ou ce dont la majeure partie de la population des pays riches, selon la majeure partie des pays, de la population des pays riches ont été délivrés au courant des Trente Glorieuses et avec ce qu'on appelle la société de consommation, c'est du besoin. En effet, d'un seul coup, on avait accès à une abondance assez incroyable en termes d'aliments, de vêtements, etc., des conditions de vie que les ouvriers au 19e siècle ne pouvaient imaginer qu'avec l'abolition du système capitaliste. Donc voilà, le capitalisme le donnait. On a été délivré donc du besoin, c'est le premier pan de la nécessité, mais le second versant de la nécessité, c'est-à-dire d'être délivré du travail, ça, on l'a jamais été. Et au contraire, même, le travail physique, il a été allégé grâce aux machines qu'on utilise, mais par ailleurs, il a été intensifié et il est pénible autrement. Aujourd'hui, on a des cadences de travail extrêmement intensifiées. On a la pénibilité, elle est physique hein, dans certains métiers, mais très souvent, c'est d'autres formes de pénibilité que celles liées au fait de porter sur son dos des charges extrêmement lourdes. C'est parce qu'il y a des formes de stress, des cadences infernales, etc., qui sont là. Donc, on n'a jamais été libéré du travail, et c'est ça qui explique la permanence de la critique du rêve de délivrance à gauche, malgré tout ce qu'on sait des liens indissolubles entre l'industrie et le capitalisme, eh bien, on a, voilà, le travail est tellement oppressant dans nos sociétés que, ben, il est naturel dans une condition pareille de rêver d'être délivré un jour du travail. C'est ça qui explique le maintien de cette idée aristocratique de liberté chez les groupes les plus libertaires qu'il y a eu dans les années 60, 70, comme les situationnistes et d'autres tendances politiques qui rêvaient d'une automatisation générale du monde et donc de pouvoir enfin se consacrer à la réalisation de l'art dans la vie quotidienne, etc. C'est cette dynamique-là qui, je pense, explique cette fascination qu'exerce encore l'idée d'être libéré du travail, avec aussi la confusion du fait que derrière le mot travail, en fait, on confond deux choses, je pense. Ce dont on veut être libéré, en réalité, c'est du salariat. C'est le travail comme emploi ou le travail comme salariat. Hein. Les ouvriers au 19e siècle, ils ne se trompaient pas de mot. Hein. Ils disaient abolition du salariat, pas abolition du travail. Mais nous, on est passé à l'abolition du travail. Or, ce mot travail, il désigne aujourd'hui massivement le salariat, mais il désigne aussi toutes les activités pénibles liées au fait qu'il faut bien liées au fait qu'il faut que dès qu'on se confronte à la matière pour satisfaire nos besoins, Eh bien, il y a toujours, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, etc. Et en ce sens-là, le travail, il a toujours existé. Même les chasseurs-cueilleurs, on va dire, qui passaient un certain nombre d'heures par jour, selon les anthropologues qui ont étudié ça, comme Marshall Salins, c'était beaucoup moins que nous, c'était 3-4 heures par jour. Mais ils avaient 3-4 heures par jour d'activité qui était liée à la nécessité de satisfaire leurs besoins, d'aller à la chasse, de récolter des fruits ou d'autres ressources qui étaient disponibles dans leur environnement immédiat. Ça, c'est le travail comme dimension le concept anthropologique de travail comme quelque chose qui ne peut pas être dépassé, à mon avis, et qui est systématiquement confondu avec le concept moderne de travail qui est complètement historique et qui est le travail salarié, notamment le travail salarié dans les conditions capitalistes, donc un travail qui est morcelé, minuté et surtout hiérarchisé, où en fait, on ne travaille pas de manière autonome, on travaille sous la direction d'un chef qui nous dit ce qu'il faut faire. Avec la réalisation, avec la massification de cette forme de délivrance par le capitalisme avancé dans les sociétés de consommation, il faut bien voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe avec l'idée de délivrance. Jusqu'à présent, la délivrance, c'était le privilège des dominants. Des dominants qui, ainsi, délivraient des nécessités de la vie quotidienne sur les groupes qui dominaient. Mais avec la massification d'une certaine forme de délivrance, limitée avant tout à la délivrance vis-à-vis du besoin, de la pénurie, de la rareté, eh bien, ça n'a pas transformé, ça n'a pas fait que les gens qui étaient ainsi délivrés d'un seul coup faisaient partie des classes dominantes. Enfin, en tous les cas, il va falloir faire une petite nuance. Quelque part, si. En fait, les classes moyennes qui ont commencé à bénéficier de ce mode de vie se retrouvaient en position de classe dominante à l'échelle géopolitique. Parce que cette délivrance-là, celle des Trente Glorieuses et du capitalisme avancé, elle est totalement basée sur le colonialisme et l'impérialisme, qu'ils soient formels ou informels. C'est en fait parce qu'on a des milliers d'esclaves et des millions d'esclaves en Chine qui nous fabriquent nos smartphones et nos ordinateurs, au Mexique qui nous fabriquent et en Inde qui nous fabriquent nos fringues, qu'on a cette abondance-là. Il faut pas se leurrer là-dessus. Et donc quelque part, la majeure partie de la population européenne, occidentale, ce que j'appelle les gens occidentalisés, parce que maintenant il y en a en Chine, il y en a dans tous les pays du monde, hein. Donc il s'agit pas de, c'est pas un problème, c'est pas les blancs, il y a rien à voir avec ça, c'est un problème systémique, hein. Se retrouvent les couches occidentalisées, celles qui bénéficient de ce mode de vie délivré des nécessités de la vie quotidienne, en tous les cas de la rareté, grâce à l'abondance marchande, eh bien se retrouvent en position de classe dominante à l'échelle du monde, en réalité. Mais dans leur propre pays, elles ne sont pas du tout, elles ne font pas partie du tout des classes dominantes. La hiérarchie sociale n'a pas du tout été abolie par la massification de la délivrance. Juste, ce qui s'est même passé, même, c'est que la domination sociale dont souffraient les classes moyennes occidentalisées a en réalité été renforcée par ce processus de massification de la délivrance, tout simplement parce qu'à partir du moment où on devient dépendant des industries capitalistes pour se nourrir, se vêtir, se loger, se chauffer, etc., eh bien, on est complètement prisonnier. On ne peut plus se révolter. Quelque part, je pense qu'un des verrous qui explique notre impuissance générale face au système capitaliste, quand bien même nous savons le désastre dans lequel on est en train de s'enfoncer, c'est la conscience plus ou moins obscure, plus ou moins claire de la plupart des gens de savoir que, eh ben, on peut pas se révolter contre un système dont on dépend au quotidien. C'est-à-dire, moi je l'ai vu ça de la part de certains camarades gilets jaunes pendant la révolte des gilets jaunes en France. Donc il y a eu ce grand mouvement en novembre-décembre, cet élan fantastique. Et puis dès le mois de janvier, avec la répression, etc., ça a commencé à se tarir. Et je rencontrais quelqu'un que j'avais vu sur les ronds-points dans ma région en février. Et puis je lui dis, ah bon, t'as abandonné le truc, le mouvement, etc. Et puis il disait, oui, mais moi je pensais que voilà, qu'on allait se débarrasser du système comme ça. Mais moi là maintenant, il faut que je nourrisse mes gosses. Pendant quelques semaines, j'ai pu me consacrer à plein temps, etc. Mais maintenant, voilà, On retourne au train-train quotidien. Il faut s'occuper de, il faut travailler pour gagner l'argent, pour pouvoir aller au supermarché, se nourrir, etc. En fait, on est complètement prisonnier de ça. Une fois délivré, la délivrance, c'est aussi une perte d'autonomie majeure, et on se retrouve sous une forme de dépendance matérielle, qui est aussi une dépendance mentale, hein, individuelle et collective, à l'égard du système qui nous exploite. Et c'est, je pense, ça qui explique ben, notre impuissance face à la catastrophe écologique, le fait que, malgré tout ce qu'on sait, de notre trajectoire insoutenable, on est incapable ni de la freiner, ni même de changer de direction, parce qu'on est devenu, on est prisonnier, on est prisonnier de ce système-là. En réalité, la délivrance dans le monde capitaliste des sociétés de consommation, ça s'est transformé en verrou qui a aggravé l'impuissance des classes populaires face au système qui les exploite. Et ça, c'est, je pense, c'est quelque chose d'absolument majeur qu'on peut documenter d'ailleurs très bien par les stratégies des patrons. Par exemple, dans ma région, j'ai trouvé un cas très bien. Il y avait une grande révolte des artisans. Des mineurs et des artisans verriers, aussi une grande grève au début du XXe siècle à Carmaux et dans le reste du Tarn. Et la grève avait pu finir par être en partie victorieuse parce qu'elle avait duré. Elle avait duré plusieurs semaines. Elle avait duré pourquoi? Parce qu'en fait, à cette époque-là, les ouvriers, ils avaient beaucoup des potagers, soit individuels, soit familiaux, plus ou moins partagés, etc. Et après que le patronat local ait trouvé un compromis et que voilà les choses soient remises en place, un des grands efforts du patronat local, ça a été de faire détruire tous les jardins ouvriers qui existaient. Toutes les possibilités, parce que ce minimum d'autonomie matérielle, bah, c'est ce qui permettait aux gens de se passer d'un salaire, de prendre le risque de se passer d'un salaire pendant plusieurs semaines, parce que bah, on pouvait encore se nourrir. Mais dès qu'on peut plus se nourrir, dès qu'on est dépendant de nos maîtres pour se nourrir, eh ben, on est prisonnier. C'est exactement le cas, soit dit en passant, aussi, le latifundisme en Amérique latine, tel qu'il se poursuit encore aujourd'hui, a toujours été basé là-dessus. Les paysans n'étaient pas forcément serfs à proprement parler, sous un régime juridique de servage, mais les grands propriétaires terriens étaient aussi les propriétaires des magasins pour aller se nourrir, et ils mettaient en place un système de dette qui rendait les paysans complètement dépendants de la soumission aux grands propriétaires pour avoir l'argent, pour payer leurs dettes, pour pouvoir s'endetter encore plus s'il le faut, pour pouvoir s'acheter au magasin du patron les moyens de nourrir leur famille. Voilà, ces mécanismes de dépendance matérielle comme moyen de soumission, comme manière de verrouiller la domination sociale, c'est quelque chose qui est connu en fait depuis la nuit des temps, je pense. On ne mord pas la main de celui qui nous nourrit, du pain et des jeux, etc. Il y a plein de dictons populaires très anciens qui témoignent de la conscience de l'importance des liens de dépendance matérielle dans les pratiques politiques d'assujettissement des populations. Et il se trouve que sur le plan philosophique, je ne sais pas si ça intéressera beaucoup les auditeurs, mais quand on regarde l'histoire des idées philosophiques sur les mécanismes de pouvoir, et ben quasiment depuis Rousseau, c'est quasiment le dernier penseur occidental qui a insisté sur cette importance des liens de dépendance matérielle dans les mécanismes de pouvoir. Après Rousseau, donc fin du XVIIIe siècle, cette question-là a tendance à disparaître de toutes les théories politiques. Prenons par exemple Foucault. Foucault, il voulait comprendre les formes de pouvoir qui se développaient à son époque. Il voulait diagnostiquer les problèmes de son temps. Il se disait qu'il était journaliste du présent, etc. Il voulait comprendre ce qui se passe à son époque. Un des éléments essentiels de son époque, ça n'a pas été seulement le développement des prisons, qui avait déjà commencé avant. Il a fait un livre magnifique là-dessus et sur toutes les formes de pouvoir, le panoptique, les disciplines, etc., qui sont liées avec le développement de la société carcérale. C'est un travail remarquable. Mais Il a écrit, en gros, entre les années 50 et le début des années 80, c'est quoi en France, les années 50 et les débuts des années 80? C'est le développement de la grande distribution. Les premiers supermarchés apparaissent dans les années 60, les premiers hypermarchés dans les années 70. Et très vite, on savait très bien comment fonctionnent les supermarchés. Il y a des vitres sans teint qui permettent de regarder ce que font les consommateurs pour influencer leur comportement, etc. Il y a de la publicité un petit peu partout, de la musique, etc. pour les conditionner. Un supermarché, c'est un panopticon génial. Mais Foucault, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'école, ça ressemble à la prison, que les hôpitaux, ça ressemble à la prison, que les hôpitaux psychiatriques, notamment, ressemblent à la prison. Il a raison, mais il s'est jamais intéressé à le phénomène massif de cette époque-là, qui était la société de consommation avec dont le temple était le supermarché, qui ressemble aussi à un panoptique, à une prison, à bien des égards. Cette conscience-là a complètement disparu, et une des choses dont il me semble important de comprendre si, pour repenser les stratégies politiques, pour essayer de je sais pas si on réussira à sortir de l'impasse industrialiste dans laquelle on est et qui nous conduit vers le collapse écologique, mais en tous les cas de freiner et de limiter les dégâts qui vont être liés à ça, eh bien, ce serait de reprendre conscience de l'importance des liens de dépendance matérielle et du coup de l'importance de développer d'autres manières de subvenir à nos besoins et notamment d'être plus autonome dans notre vie quotidienne. Alors, là, j'ai beaucoup parlé d'histoire des idées, de la manière dont la liberté a été théorisée par les grands penseurs de l'Occident, de la tradition occidentale, les grands philosophes, les libéraux, Karl Marx, Benjamin Constant, tous ces auteurs-là. J'ai beaucoup le côté, ça c'est le côté histoire des idées de mon livre, et c'est aussi la partie critique de mon livre, ce que je critique. L'idée de liberté comme délivrance, on l'a vu, dont on l'a vu, je pense qu'il faut s'émanciper aujourd'hui. Mais au cours de mes recherches, de mes lectures, de ces 10 ans donc de travail, bah, je me suis rendu compte quand même que cette conception-là de la liberté, c'était pas la seule conception possible de la liberté, et que ce n'était même pas la seule conception qu'il y avait eu en Occident, même à l'époque moderne. C'est-à-dire même, on voit, il y a d'autres manières de concevoir la liberté. On les retrouve même en Occident, de manière sous-jacente, et on les retrouve même dans l'Occident moderne. Mais on les retrouve à bas bruit, de manière souterraine, etc. On les retrouve. On a peu de textes à ce propos-là. En gros, l'idée, ce qui s'est passé, c'est que je m'intéresse beaucoup, par exemple, voilà, comme toute une partie de la gauche altermondialiste, j'ai été beaucoup fasciné, influencé par le mouvement zapatiste, d'un côté. Et aussi les résistances en Inde, par exemple, des femmes Shipko à la déforestation et à l'accaparement, aux destructions des forêts par certaines multinationales en Inde. C'était deux mouvements un petit peu centraux dans l'altermondialisme. J'ai été altermondialiste, voilà, dans les années 2000. C'est le premier mouvement auquel j'ai participé avec Gênes, Evian, etc. À cette époque-là. Et les zapatistes, il parle de liberté, mais il parle d'autonomie. Et quand il parle d'autonomie, il parle de prendre en charge nous-mêmes les tâches politiques et aussi de construire l'autonomie matérielle, c'est-à-dire d'autoproduire, d'essayer de produire l'alimentation, de créer un système de soins autonome, un système d'éducation autonome, c'est-à-dire indépendant de l'État, autoconstruit par les gens eux-mêmes. On voit bien que ça n'a rien à voir avec l'idée de délivrance. Si la délivrance, c'est être déchargé des nécessités liées à la subsistance, eh bien là, l'autonomie, ce serait prendre en charge nous-mêmes les nécessités liées à la subsistance, à l'éducation, aux soins, à la nourriture et à l'organisation politique. Donc, voilà, c'est quand même frappant. Et je me suis rendu compte que cette idée-là, on l'a retrouvée ailleurs. On l'a retrouvée chez des femmes Shipko aussi, qui avec cette idée qu'elle s'agissait de défendre les forêts contre l'accaparement aussi, parce que les forêts, pour ces femmes-là, eh ben, c'était une ressource essentielle qui leur permettait d'assurer leur subsistance avec plein de compléments alimentaires, mais surtout plein de plantes médicinales qui leur permettaient une certaine autonomie en matière de soins et en matière énergétique, avec le bois, en matière alimentaire, avec certaines plantes, etc. Donc, là, on voyait une toute autre idée de liberté. Et à force de lire, de lire, de lire, de lire dans tous les sens, hein, bah, je me suis rendu compte qu'on retrouvait ça aussi en Occident. Il y a eu des révoltes qui sont faites au nom de la liberté en Occident, où l'idée de liberté, c'était pas du tout l'idée de délivrance. Alors, il y a au moins deux exemples majeurs. La guerre des paysans en Allemagne, c'est un mouvement, une insurrection populaire, un soulèvement populaire absolument qui a ébranlé le Saint-Empire romain germanique à l'époque. C'est à l'époque donc de la Réforme, donc de Luther, etc. Les paysans se révoltent. Donc c'est en 1500 et quelques. Les paysans se révoltent et ils écrivent un texte de revendication qui va être connu sous le titre Les 12 articles de la paysannerie, les 12 revendications de la paysannerie. Et parmi ces revendications, bah, c'est que des revendications liées à la liberté. Il y a la liberté au sens de l'abolition du servage, bien sûr. Il y a la liberté au sens de les droits de participation politique, en l'occurrence le droit d'élire le pasteur, le prêtre, le clergé, qui était en fait la fonction politique centrale dans un village de paysans à cette époque-là, le droit d'être jugé par ses pairs, donc de pas être jugé par des aristocrates qui sont d'une condition différente de vous en cas de problème judiciaire, mais d'être jugé par des gens de la même condition, des paysans aussi, ou des roturiers, on va dire. Il y a aussi tout un certain nombre de revendications fiscales, bien sûr, hein, les révoltes fiscales, c'est au cœur de toutes les grandes révoltes populaires à toutes les époques, hein, de diminuer les charges imposées aux gens, donc abolition de la petite dîme, abolition d'un certain nombre de charges liées à l'usage des terres, à l'allocation des terres, etc. Mais le plus stupéfiant, c'est que sur ces 12 articles, il y en a 5 qui concernent l'autonomie matérielle. Il y a ce que les paysans appellent la liberté des forêts, la liberté des eaux et la liberté du gibier, c'est-à-dire la liberté d'aller prélever un certain nombre de ressources dans les forêts ou dans les rivières, et notamment, bah, par exemple, des animaux sauvages. On sait que la première chose qu'a faite la Révolution, ça a été d'abolir le privilège des nobles sur la chasse. Et il y a deux autres articles qui sont tout simplement la rétrocession des biens communaux aux paysans, aux communautés paysannes qui avaient été spoliées. Donc ce qu'on voit, c'est que pour ces paysans-là, eh ben, la liberté, ça incluait l'autonomie matérielle, c'est-à-dire l'accès aux ressources qui permettent de satisfaire à leurs besoins. Et pourquoi? Bah parce que bah voilà, cette histoire-là qui a été complètement oubliée dans la théorie politique, c'est que pour dominer, ce qui a été complètement oublié dans la théorie politique, c'est les raisons pour lesquelles les puissants, les riches, à toutes les époques, se sont accaparés les ressources. Les puissants et les riches, ils voulaient pas s'accaparer les ressources juste par le plaisir d'en avoir plein, 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 plein. Ça sert à rien d'avoir 2000 hectares de terre si on n'a personne pour les travailler à sa place. Juste ces 2000 hectares de terre, ils rapportent rien. Ils rapportent rien. Il fallait se les accaparer pourquoi? Ben, pour empêcher les classes populaires, les autres, de les utiliser pour satisfaire à leurs besoins, parce que dès lors, on avait un moyen de pression pour les forcer à travailler pour nous. J'ai trouvé plein d'attestations de cette conscience très nette dans les classes dominantes à toutes les époques. Alors, je vais prendre juste un exemple. Quand vous savez que le servage s'est maintenu en Russie jusqu'en 1860. C'était le dernier pays d'Europe où le servage a été aboli. Le tsar et les classes dominantes de grands propriétaires fonciers ont concédé cette abolition parce qu'ils voyaient bien que la révolte grondait, qu'il fallait faire des concessions, que c'était plus possible, on pouvait plus maintenir ce système féodal à l'ancienne, etc. Et donc, dans les discussions qui ont présidé à l'abolition du servage et donc à une certaine réforme agraire qui allait nécessairement avec l'abolition du servage, eh bien, les grands propriétaires fonciers ont dit, OK, c'est raisonnable, Il faut lâcher du lest, sinon on va se faire décapiter comme Louis XVI. Donc on va lâcher du lest, mais en aucun cas de figure il ne faut concéder aux moudjiks, aux paysans russes, suffisamment de terres pour assurer la subsistance de leur famille. Et ils ont même poussé le vice à remarquer que en Ukraine, 2 hectares ça suffit pour la subsistance. Mais par exemple, dans certaines régions de l'Oural plus pauvres, on peut concéder plus parce que les terres sont plus pauvres. Et donc, à chaque fois, ils concédaient région par région moins que ce qu'il fallait pour assurer la subsistance. Et pourquoi? Pour une raison très simple, parce que dès lors que le moudjik ne pouvait pas assurer la subsistance de sa famille sur les seules terres qui allaient lui être concédées, il allait devoir se vendre comme force de travail aux anciens seigneurs dont il avait été le serf autrefois. Il s'agissait de maintenir la dépendance matérielle pour assurer la continuation des formes de domination sous une nouvelle forme, mais d'assurer la continuation de la domination sociale. Et donc, les paysans, de toutes les dans toutes les civilisations, on a vu ça. Toutes les civilisations, il y a eu ces phénomènes d'accaparement des ressources de la part des puissants pour mettre les populations qu'ils cherchaient à dominer en situation de dépendance matérielle et donc les forcer à travailler, trouver un moyen de les forcer à travailler pour eux quand ils ne pouvaient pas juste les forcer par la simple force des armes comme on le faisait avec des esclaves. Donc trouver des ressorts plus subtils de domination sociale que la simple menace de la violence directe. Et donc ça, les paysans, les classes populaires, ils étaient tout à fait conscients de ça, puisque c'était la manière dont ils étaient dominés. Les gens, ils étaient pas cons, hein. Ils savaient très bien comment ils étaient dominés. Et c'est pour ça que quand ils se révoltaient, quand il y avait des révolutions, des soulèvements, les revendications, quand il y en avait, c'était justement la défense des biens communs ou la rétrocession des biens communs, et sinon des revendications d'accès aux ressources et notamment d'accès à la terre. D'où le titre de mon livre, Terre et Liberté. Cette formule, on l'identifie parfois à la Révolution espagnole 1936, à la Révolution sociale en Espagne, mais en fait, dans la langue castillane, ça vient plutôt de la Révolution mexicaine 1911-1917. Mais cette formule, c'est aussi le titre de la principale revue des populistes russes, c'est-à-dire les gens qui essayaient d'en finir avec la monarchie à la fin du 19e siècle en Russie. Et en fait, cette formule, on la retrouve dans plein d'endroits, dans plein de revues, à toutes les époques, etc., du côté des forces d'émancipation, tout simplement parce qu'il y avait cette conscience partagée que l'accès aux ressources est la condition de la liberté, parce que l'un des ressorts principaux de la domination sociale, c'est la dépendance matérielle assurée par l'accaparement des ressources. Mais voilà, c'est pour cette raison que, à toutes les époques et sur tous les continents, quand les classes populaires se révoltaient, eh ben, il y avait souvent une dimension de revendication d'accès à la terre ou aux ressources de manière plus générale et défense des biens communs. Il y a bien sûr eu d'autres manières, d'autres types de révoltes, mais c'est quelque chose, c'est un fil rouge qui traverse toute l'histoire des révoltes populaires dans l'histoire du monde. Mais du coup, il faut bien voir que là, il y a quelque chose qui est absolument crucial sur le plan, à mon avis, en tant que philosophe qui s'intéresse aux théories politiques, etc. Il y a quelque chose, il y a un message absolument d'une importance considérable sur le plan du concept de liberté, un message philosophique et politique très profond. C'est que la liberté pour les classes populaires, c'est pas d'être délivré des nécessités de la vie quotidienne. C'est d'accéder aux ressources qui permettent de prendre en charge nous-mêmes les nécessités de la vie pour nous libérer des formes de dépendance matérielle qui verrouillent notre domination. Et quelque part, quand on regarde, je parle d'autonomie pour cette vision-là de la liberté, c'est une rétroprojection. Le mot autonomie, c'est un mot qui est apparu très tard dans la langue française, dans la plupart des langues modernes. C'est un mot qui vient du grec, qui était surtout présent en grec sous la forme d'adjectif. on s'en fout des détails, mais il apparaît dans les langues modernes à la fin du 18e chez les savants, plutôt dans les milieux savants, et puis se popularise seulement au 19e siècle. Donc les paysans révoltés en 1500 et quelques en Allemagne, ils parlent de liberté, ils parlent pas d'autonomie. Ils veulent être libres, c'est tout, c'est de ça dont ils parlent. J'ai utilisé le terme autonomie, pourquoi? Bah parce que aujourd'hui, dans le monde anticapitaliste et écologiste, on parle beaucoup de cultiver notre autonomie matérielle et politique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Sinon, prendre en charge nous-mêmes les nécessités matérielles et politiques de la vie. Quand on dit, quand on parle d'autonomie alimentaire, autonomie énergétique, autonomie médicinale, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que on veut se rendre indépendant des industries qui nous dont on est dépendant pour assurer nos besoins alimentaires, énergétiques et médicinaux. Et ça implique quoi? Ça implique de reprendre en charge nous-mêmes la production énergétique, la production alimentaire ou la récolte de plantes médicinales ou les pratiques de soins, etc. C'est ça, l'autonomie. Or, cette idée de subvenir à nos propres besoins, de se réapproprier nos conditions de vie, d'assurer notre subsistance, eh bien, c'est ça qu'il y a derrière cette conception paysanne, populaire, ancienne de l'autonomie. Et juste, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, les classes populaires, elles n'écrivent pas. Enfin, pendant très longtemps dans l'histoire, elles n'écrivaient pas ou très peu. Donc, et en tous les cas, elles faisaient pas de théorie pour justifier leur revendication. On a très peu de traces de ça. Les gens qui écrivaient, c'était des intellectuels. J'en fais partie. Je connais bien cette profession-là, puisque j'en suis un typique, par passion et par même profession, puisque maintenant je suis enseignant à l'université. Or, de quoi a besoin un intellectuel? Qu'est-ce qu'il veut fondamentalement dans la vie? Il veut pouvoir lire, écrire, réfléchir toute la journée. Or, la condition de ça, c'est quoi? C'est d'être délivré des nécessités matérielles et politiques de la vie quotidienne. D'où le fait que les intellectuels, à toutes les époques, ont naturalisé, ont estimé que ça allait de soi, le fait que derrière la liberté, dans le concept de liberté, sous le concept de liberté, il y ait cette dimension-là de la délivrance et qu'ils n'arrivent pas à mettre ça en question, qu'ils ont beaucoup de mal à mettre en question parce que ça impliquerait de remettre en question peut-être leur passion, leur mode de vie, la condition de leur travail quotidien. Moi, ce que je pense, c'est que inconsciemment, quelque part, dans les franges les plus radicales, les plus cohérentes, à mon sens, du mouvement anticapitaliste et écologiste aujourd'hui, quand on parle de cultiver notre autonomie matérielle et politique, eh bien, finalement, il faut bien comprendre qu'on ne fait que renouer avec une très vieille conception de la liberté qui a traversé toutes les époques, qui vient des classes populaires et qui s'est constituée et qui a été d'ailleurs refoulée en fait par une autre conception plutôt aristocratique et scolastique au sens lié à la position des intellectuels de la liberté comme délivrance. Mais quand on regarde la manière dont cette idée de développer son autonomie se diffuse actuellement, notamment en France et notamment dans le milieu écologiste, il y a beaucoup une idée il y a un biais individualiste, on va dire, où il y a cette idée que l'autonomie, on pourrait la pratiquer à l'échelle d'un foyer, soit d'un individu, soit d'une famille, soit d'un groupe relativement restreint, à 10, 15 potes, etc. On va développer notre autonomie. Or, moi, je pense que il faut faire attention. Il y a un danger. Il y a un danger là-dedans. Je pense que l'autonomie, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau domestique, il y a le niveau communal, il y a le niveau du quartier ou de la commune, il y a le niveau de la région. Il y a plusieurs niveaux et il y a plein de choses qui peuvent se faire au niveau individuel ou à petite échelle. Mais il faut bien comprendre que l'autonomie, c'est un rapport, la subsistance, c'est un rapport social à la nature. Personne, absolument personne, n'est capable tout seul d'assurer sa subsistance sur cette planète. Ça, c'est un mythe libéral dont il faut absolument se libérer, qu'il ne faut surtout pas, dont il ne faut surtout pas donner une version écolo. Le mythe de Robinson Crusoe. Mais d'ailleurs, même Robinson Crusoe, en fait, il n'assure pas sa subsistance tout seul sur l'île. Il serait mort immédiatement sur son île si l'auteur, Daniel Defoe, n'avait pas eu la bonne idée de faire s'échouer pile en même temps que lui des caisses d'outils sur le rivage, grâce auxquelles il va pouvoir se faire un habitat, etc., et faire un certain nombre de choses. Or, ces caisses d'outils, qu'est-ce qu'elles matérialisent? Elles matérialisent la présence, le travail, les connaissances de centaines peut-être d'artisans et donc toute une présence sociale. En réalité, la subsistance, c'est un rapport social à la nature, et ça ne se fait jamais tout seul, ni en petits groupes. Ça implique l'articulation de plein d'échelles différentes. Et donc, l'autonomie, c'est pas l'indépendance. Il faut bien distinguer les deux concepts qui souvent sont confondus, puisque dès qu'on parle de, je le disais tout à l'heure, il faut se libérer de la dépendance au système industriel, donc on pourrait se dire, bon, l'autonomie, c'est l'indépendance. Mais non. Parce que l'indépendance est un mythe. Ça n'existe pas. Personne n'est indépendant. Ça, c'est un mythe bourgeois. L'homme indépendant, etc. En général, c'était le bourgeois qui a du fric. Et qui masque, derrière sa revendication d'indépendance, tout ce qu'il doit à un certain nombre de femmes et d'hommes qui travaillent pour lui, et sans lesquels il ne pourrait pas assurer sa subsistance et sans lesquels il ne pourrait même pas vivre. Donc, il faut se libérer de cette idée de l'indépendance. Il faut arrêter de penser la liberté en termes d'indépendance. Il faut reconnaître que la liberté, ça ne peut être que des formes d'interdépendance. Donc, l'autonomie, ce n'est pas le refus de toute dépendance, c'est le refus d'un certain type de dépendance. Ce que j'appelle les dépendances asymétriques, celles qui nous mettent à la merci des puissants qui nous dominent. Et dans notre monde moderne, le modèle même des dépendances asymétriques, c'est les dépendances qui relient les individus de nos sociétés individualistes aux grandes organisations privées ou publiques qui se chargent d'assurer, de subvenir à leurs besoins. Qu'il s'agisse d'entreprises qui leur donnent de quoi se chauffer, de quoi se vêtir ou de quoi se nourrir, ou d'institutions publiques qui leur garantissent, qui leur donnent des soins, etc., etc. Parce qu'un individu, face à des grandes organisations bureaucratiques, privées ou publiques, ne peut rien. Il est complètement impuissant. La seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement se réunir tous ensemble, mais on sait que c'est dur, pour essayer de peser contre ces grandes institutions. Les paysans, la dépendance asymétrique, le cas typique, on peut dire, bon, enfin si, on peut dire l'individu face aux banques, hein, ça on le sait, voilà, quand on est endetté, on est prisonnier, c'est très dur de faire quoi que ce soit. Mais sinon, c'est le paysan par rapport aux grands groupes agro-industriels qui achètent leur production. Si ces grands groupes industriels, type Lactalis, on en parle beaucoup en France, sont capables d'imposer un prix inférieur au coût de production aux paysans, c'est que les paysans sont ligotés, ils sont totalement dépendants, ils produisent des quantités tellement folles, en l'occurrence de lait, qu'ils ne peuvent pas en assurer l'écoulement eux-mêmes, donc ils sont dépendants du système agroalimentaire, de la grande distribution et donc de ces réseaux-là. Donc ils n'ont pas le choix. Ils sont ligotés, ils sont totalement prisonniers. C'est les dépendances asymétriques, ça qui verrouille notre domination. Donc l'autonomie, c'est pas refuser le refus de toute forme de dépendance, c'est essayer de se libérer de ces dépendances asymétriques. Et donc ça implique de reconstruire des interdépendances à d'autres types, des interdépendances à petite échelle, vis-à-vis de personnes concrètes ou de groupes limités, des interdépendances locales, personnelles, et par opposition aux dépendances asymétriques qui sont souvent impersonnelles et anonymes et qui s'étendent en fait sur des territoires énormes qui rendent les gens dépendants impuissants. Mais bien sûr, il y a un problème, c'est que ben voilà, ces formes d'interdépendance locale, personnelle, etc., elles n'ont jamais été idylliques dans l'histoire. Il faut pas se raconter d'histoire, hein. En tous les cas, moi j'essaye cultiver un minimum la lucidité. Je pense que ça devrait être la valeur centrale de tous les intellectuels, de cultiver la lucidité. Et voilà, et ces interdépendances personnelles, en tous les cas dans les sociétés traditionnelles, elles se traduisaient par quoi? Par des formes de domination personnelle très graves, en fait, des dominations de type notamment patriarcale ou tout ce qu'on peut associer à des formes de féodalisme, de patronage par les notabilités locales sur les familles ouvrières ou les familles de paysans. Et donc, et c'est là tout le défi de l'autonomie, mais la plupart des groupes qui cultivent leur autonomie matérielle en sont assez conscients, hein, de tout ça. Moi, je ne fais que mettre des mots sur des intuitions politiques très largement partagées dans le mouvement dont je fais partie. Tout le défi, c'est de reconstruire des interdépendances personnelles sans retomber dans des formes de domination personnelle, patriarcale, etc. C'est-à-dire, il faut reconstruire des formes d'interdépendance, tout en maintenant une exigence d'égalité, sans par exemple que les tâches qu'il va falloir se répartir ou les ressources qu'il va falloir se répartir, collectiviser et partager, sans que cette répartition des tâches ou des ressources se fasse en fonction de critères de genre, de voilà, il va falloir. Il s'agit pas de revenir aux communautés traditionnelles avec tous leurs mauvais aspects. Il s'agit de réinventer la subsistance et l'autonomie dans un cadre complètement nouveau qui soit cohérent avec nos aspirations, notre aspiration centrale à respecter la liberté et l'égalité de chacun et de chacune. Et donc ça c'est un des dangers, un danger majeur, c'est soit de retomber là-dedans. Soit, comme c'est compliqué, d'essayer d'être le plus autonome possible à une toute petite échelle, mais du coup, ça nous conduirait à un autre problème, c'est que ça pourrait avoir un effet étouffant et complètement dépolitisant. Moi, en fait, je connais plein de gens qui se sont lancés à corps perdu depuis les années 2010, qui avaient tout ça, qui avaient très bien vu tout ça. Ils n'avaient pas attendu Aurélien Berland pour comprendre tout ça. Enfin, d'ailleurs, c'est moi surtout qui ai compris tout ça en discutant avec les gens. C'est plutôt l'inverse. Et moi, je me suis fait le rédacteur de toutes ces idées qui sont en vogue dans un milieu assez large, hein, enfin assez large, très minoritaire, mais pas complètement groupusculaire ou confidentiel. Et voilà, il y a plein de gens qui se lancent dans cette idée d'autonomie matérielle pour ne plus être complices d'un système industriel qui détruit tout sur son passage, une sorte de bulldozer qui est en train de saccager la planète entière. Mais qui se cassent les dents parce qu'ils le font à trop petite échelle, sans organisation collective, et qui se rendent compte au bout de quelques années qu'ils sont totalement épuisés, qu'ils en peuvent plus, qu'ils ont plus de vie, qu'ils ont plus de, et que notamment ils ont aucun temps à consacrer aux luttes politiques. Mais en fait, cultiver son autonomie, essayer de se créer des petites niches, des petites oasis d'autonomie, etc., quand il y a un bulldozer qui est en train de tout fracasser sur son passage. C'est complètement illusoire. Il faut le reconnaître, il faut se le dire bien dans les yeux. En fait, ça, on pourra rien, on peut rien faire. Enfin, il y a un problème avec cette idée que, par exemple, il y a aussi l'idée que, oui, c'est sûr, mais en fait, on va faire tache d'huile, etc. Moi, ça, j'y crois pas. En fait, je pense que toutes les alternatives, si belles, si abouties soient-elles, elles se feront écraser par le rouleau compresseur du capitalisme industriel, parce que, ne serait-ce que parce que le changement climatique, les épidémies provoquées par les formes d'élevage industriel, l'épuisement des ressources, la contamination de l'eau, etc., 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 et ben ça se joue à une échelle maintenant nationale, internationale, voire globale, et que donc il faut être capable d'agir aussi à ce niveau-là. Il s'agit pas de juste de agir local, penser global. Il faut penser global et local et agir global et local, en fait. Aujourd'hui, c'est un des défis. Donc c'est ça aussi le problème de penser la subsistance et l'autonomie à une échelle trop réduite, c'est que on risque de se dépolitiser, de perdre notre capacité d'intervention, de participation à des luttes qui nécessairement doivent se faire à une autre échelle que l'échelle strictement locale. Et là, il y a une contradiction, il y a une tension qui est très difficile à vivre et à être très inconfortable, hein. Surtout moi, par exemple, c'est très dur à vivre depuis 5 ans que je commence à avoir des enfants parce que Voilà, les journées, elles font que 24 heures. Hein. Avant d'avoir des enfants, là, pendant 15 ans, surtout parce que j'avais pas de travail salarié, je pouvais assez bien assurer pas mal de choses en termes de subsistance et m'engager à corps perdu dans certaines luttes, dans le mouvement des ZAD, et dans d'autres combats écologiques et politiques qui me semblaient absolument essentiels. Mais quand on, à partir du moment où j'ai eu des enfants, et encore pire encore, à partir du moment où j'ai accepté ce poste à l'université, et ben entre-temps, les journées, elles font toujours 24 heures. Hein, donc il y a ça, il y a pas moyen de changer ça. Et donc c'est très compliqué. Mais ça peut se penser de manière aussi collective, c'est-à-dire que voilà, on peut pas tout faire. Il faut le reconnaître, hein, on peut pas tout faire, mais c'est pour ça qu'il faut penser la subsistance, l'autonomie de manière collective, parce qu'en réalité, ce qui se passe, en tous les cas, moi, c'est mon expérience dans le monde dans lequel j'évolue, c'est que bah voilà, quand il y a des appels à mobilisation pour lutter contre un barrage, pour lutter contre un aéroport, pour lutter contre un projet, et bah voilà, tout le monde ne part pas. Tout le monde ne part pas dans les petits mondes, un petit peu où on cultive notre autonomie matérielle. Il y a une, deux, trois voitures qui partent, et puis il y a un certain nombre de personnes qui restent, et donc ils peuvent s'occuper des potagers, des bêtes, de ceux qui vont partir. Et donc il y a des manières de penser une certaine alternance, en fait. L'autonomie, c'est pas prendre tout en charge soi-même, individuellement. Parce que ça n'existe pas. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la vie autonome, dans un sens très large, c'est une alternance entre se charger d'eux et être déchargé par, avec de la réciprocité dans ces moments-là. En fait, toute une partie de notre vie, on est à la charge de nos parents ou des autres, à chaque fois qu'on est malade, à chaque fois qu'on est blessé ou quand on est handicapé, on est à la charge. Et l'idéal, c'est que tout en étant à la charge, on peut être en charge d'autres aspects, à d'autres moments, etc., qu'il y a une alternance. Il faut pas se charger de tout, nos épaules sont trop faibles, il faut accepter notre finitude. L'autonomie, c'est pas le super-héros Rambo ou je ne sais quoi qui assure son autonomie matérielle tout seul, qui en plus combat contre le système, etc. Voilà, il faut sortir de ces fantasmes mégalomaniaques, etc., liés à l'individualisme moderne, à des figures comme Robinson ou je ne sais quoi, ou super-héros. Il faut accepter notre finitude. Et notre finitude, pour l'accepter, eh ben, il faut faire avec les autres. Et donc, se partager, accepter un certain nombre de partages de rôles, de ne pas pouvoir faire tout seul. Et donc, de penser ce moment de cultiver notre indépendance matérielle et de nous charger nous-mêmes de nos conditions de vie, de le penser comme quelque chose de collectif. Et c'est pour ça que l'autonomie, je la définis toujours par des formules collectives. Prendre en charge nos propres besoins, faire par nos propres moyens, vivre de nos propres ressources. Voilà. Là, j'ai développé le concept d'autonomie un peu de manière très générale, très abstraite. Assurer sa subsistance, prendre en charge nos conditions de vie, assumer la nécessité, etc. Formule, on me dira, oui, sympathique, mais bon, très général. Moi, je pense pas que les philosophes, que les intellectuels en général aient vocation à faire des projets de société bien définis, etc. Je pense que tout ça, c'est pas notre rôle. Mais par contre, j'avais envie quand même de rentrer un petit peu plus dans le concret, de pas juste me satisfaire de ces formules très générales. Et donc, à la fin de mon ouvrage, j'ai essayé d'identifier au moins trois plans, trois niveaux, trois dimensions majeures de l'autonomie pour essayer de voir un petit peu le défi que constitue en réalité le fait de construire, de reconquérir notre autonomie, de construire un monde plus autonome que le monde totalement hétéronome dans lequel nous vivons désormais. Et donc j'ai identifié trois plans. Le plan donc des besoins, le plan des techniques et le plan du rapport au territoire et à des ressources sur lesquelles j'ai un certain nombre de choses à dire, qui restent très générales, mais qui nous permettent quand même de donner un petit peu de concrétude à tout ça. Alors d'abord, les besoins. En fait, si être autonome, c'est subvenir à nos propres besoins, la première chose qu'il faut remarquer, si c'est si l'autonomie, c'est d'être capable de couvrir nos propres besoins, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que si nos besoins sont infinis, on ne pourra jamais les couvrir. Parce que ça déborde tout le temps. En fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans notre monde, on est pris dans une fuite en avant des nouveaux besoins. Il y a sans cesse de nouveaux besoins qui arrivent et qui se transforment en besoins bien réels parce qu'on n'a plus le choix. C'est toutes les questions de monopole radical chez Illich, etc. Où une fois habitué à l'usage d'un certain outil, cet outil se transforme en nécessité. On n'arrive plus à vivre sans cet outil-là. On n'arrive plus aujourd'hui à communiquer sans smartphone. J'essaye de lutter contre ça, de ne pas avoir de portable, mais de fait, je me complique la vie en partie et je sais que tôt ou tard, je serai obligé d'avoir un outil comme ça. Je me fais pas d'illusions, mais pourtant, je pense qu'il faut résister au maximum. Hein. Je pense que ça a une valeur. Mais il faut pas se raconter d'illusions. Mais en tous les cas, du coup, ça implique l'autonomie. Ça implique quoi? Bah, ça implique il faut repenser nos besoins pour les réduire, pour retrouver une maîtrise sur nos besoins, sur la dynamique notamment, sur cette dynamique de multiplication, de prolifération des besoins en permanence. Mais ça, c'est très compliqué parce que les besoins, ils finissent par nous façonner, par façonner notre subjectivité, par façonner nos habitudes. Je ne me raconte pas l'idée, je ne me raconte pas l'histoire que on pourrait vivre. Juste en claquant des doigts, on pourrait revenir à des formes de vie, celles de paysans très largement autonomes dans la France de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il y avait encore une très grande partie de l'autonomie, c'est pas de revenir à Mathusalem, hein. C'est la voilà la plupart une grande majorité de la population française dans les années 50 était rurale et les gens ils faisaient un nombre de choses par eux-mêmes absolument incroyables. Ils subvenaient très largement à leurs besoins, pas à tous, mais c'était le degré d'autonomie d'une famille paysanne à cette époque-là était absolument stupéfiant par rapport à notre degré de dépendance vis-à-vis du système industriel aujourd'hui. Mais voilà, mais de revenir à si j'étais plongé moi du jour au lendemain dans une famille dans le Morvan dans les années 50, bah, je pense que je trouverais les conditions de vie insupportables. Parce que bah voilà le monde m'a façonné, m'a transformé, etc. Donc il va avoir tout un travail sur soi à faire. De toute façon, la question ne se pose pas, hein. La machine à remonter le temps, ça n'existe pas. Si on réussit, ne serait-ce qu'à bloquer la dynamique d'escalade des nouveaux besoins, c'est déjà le point essentiel aujourd'hui. Enfin, c'est déjà un point majeur. Ce sera une victoire absolument énorme si on réussissait à stabiliser, à rentrer dans un état stationnaire de croissance zéro, à sortir de l'escalade permanente des nouveaux besoins, des nouvelles technologies. Ce serait déjà pas mal. Et puis après, on pourra penser à faire la désescalade. Et cette désescalade, il faudra être progressive. Mais ça prendra du temps parce il va falloir se réhabituer à des choses dont on a été déshabitué. Et voilà. Et c'est pas facile. Mais il faut bien voir que dans cette dynamique, il va falloir réduire nos besoins, il va falloir limiter nos besoins. Et le problème des compenses à ça, c'est qu'on voit tout de suite, on peut imaginer le scénario totalitaire, hein, qui est dans la tête de certains écologistes. Il faudrait un État fort qui va définir quels sont les besoins vitaux et dire, bah voilà, les vrais besoins, c'est ça, 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 ça. Tous les restes, c'est des besoins artificiels. Et on va en interdire, en prohiber la satisfaction. Moi, ça, c'est le genre de scénario qui ne me plaise guère, hein, comme libertaire et comme anarchiste. Et je pense que l'autonomie, c'est intéressant parce que l'autonomie, justement, c'est dès qu'on fait les choses par soi-même, d'abord, on se rend compte de ce que ça coûte de faire les choses par soi-même. Et comme les journées, toujours la même chose, elles n'ont que 24 heures. Eh ben, dès qu'on est dans une logique d'autonomie, on est dans une logique nécessaire de réduction des besoins. Parce qu'à un moment donné, le premier besoin, c'est de ne pas passer ses journées à travailler pour satisfaire des besoins infinis. Et en fait, on va se dire à un moment donné, non, mais en fait, si la satisfaction de ce besoin-là, il me coûte une heure de travail en plus tous les jours, ben en fait, cette heure-là, après les 7 heures précédentes, Et ben en fait aller en trou, moi je préférais faire autre chose, jouer de la guitare, etc. Et donc ben, ce besoin de saucisson ou je ne sais quoi, et ben je m'en passe, j'arrête d'élever des cochons, je me passe de saucisson et ça me va bien. En fait, j'ai réussi à vivre à ça, même si j'aime le saucisson par ailleurs ou la charcuterie, etc. Voilà, il y a une dynamique dès qu'on est autonome, dès qu'on se lance dans un projet d'autonomie, il y a une dynamique d'auto-limitation des besoins qui se met en place. Et à contrario, quand on la délivrance, c'est l'inverse. Quand on fait tout faire à d'autres personnes, il n'y a rien qui vient naturellement borner nos besoins et nos désirs. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les classes dominantes de toutes les époques. Elles ont, c'est la fuite en avant dans les désirs les plus fous, les caprices les plus délirants, etc. Et c'est ça aussi la valeur de l'autonomie, c'est de nous permettre de sortir de un petit peu de scénario totalitaire ou autoritaire dans la question du rapport à nos propres besoins. Deuxième dimension de l'autonomie, donc, faire par nos propres moyens. Et ça implique une réflexion, ça implique plein de champs de réflexion, ça implique d'abord de recourir plus à l'entraide, qu'à des spécialistes, présumés, à des professionnels quand on fait notre maison, etc. D'essayer de faire par nos propres moyens au sens, voilà, les ressources autour de nous, les copains, les copines, les gens qui ont des compétences, etc. Mais bien sûr, ça implique une réflexion sur les moyens techniques qu'on va utiliser. Et donc, l'autonomie, dans ce sens-là, c'est pas l'idée qu'on va se passer de toute forme de moyens techniques parce que ce serait des médiations, etc. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je pense qu'il faut faire une distinction très nette entre technique et technologie et qu'il faut refuser toute forme de critique de l'essence de la technique. Tous les discours de critique de la technique comme une espèce d'entité ou de dimension métaphysique, voilà, à la Heidegger, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense qu'il faut faire une analyse au cas par cas de l'outillage que l'on utilise pour distinguer entre les outils qui soulagent nos efforts, et c'est normal de vouloir se soulager nos efforts sans remettre en question notre autonomie. Donc les outils qui soulagent nos efforts, qui nous délivrent donc de certaines peines, de certains efforts ou qui réduisent notre temps de travail, ça c'est tout à fait normal. Donc les outils qui soulagent nos efforts tout en nous rendant autonomes, sans remettre en question notre autonomie, des technologies qui, au prétexte de nous promettre, de nous délivrer de tout un tas d'activités et même de nous délivrer des limites quasiment constitutives de notre condition humaine en nous permettant de nous relier à n'importe qui, à l'autre bout du monde, n'importe quand, de tout faire, etc. Eh bien, en fait, nous rendent totalement dépendants des industries qui produisent ces technologies qu'on ne peut ni produire nous-mêmes, ni réparer nous-mêmes, ni gérer souvent nous-mêmes ou très difficilement ou dans des marges très limitées, et qui, une fois qu'on est habitué à les utiliser, ben, se transforment en besoins irrépressibles parce qu'on ne sait plus faire sans elles. Donc notamment toutes les voilà, il y a une réflexion critique à avoir sur les technologies, notamment toutes les technologies numériques, etc. Parce qu'on ne les contrôle pas, parce qu'on ne peut pas les refaire nous-mêmes, et il faut défendre, en fait, l'autonomie, c'est défendre les basses technologies, les technologies humbles, à ce qu'on appelle les low tech, etc. Donc des technologies qu'on peut sinon produire nous-mêmes, du moins entretenir et réparer le plus possible nous-mêmes, ou en tous les cas avec des ressources qui ne sont pas délirantes. Si on sait mal travailler le métal, bon ben voilà, on sait qu'on a un copain pas très loin qui pourra réparer la dent de notre. Si on ne sait pas forger une grelinette, et ben voilà qu'on a un copain, que c'est pas sorcier d'avoir un copain forgeron qui pourra ressouder la dent de notre grelinette, que c'est beaucoup plus facile à faire ça que par exemple d'avoir un super tracteur miniature qui marche avec de l'électronique et qui tombe en panne pour X ou X raison, et pour le réparer il faut une mallette, etc. Enfin, toutes ces choses-là sont connues. De ce point de vue-là, l'autonomie, la réflexion technique sur l'autonomie, le meilleur endroit pour la faire, c'est l'atelier paysan en France. Il y a une super interview de l'atelier paysan sur les podcasts de Sobrevivir a la Descalabro, et je pense que c'est une très bonne initiative. Alors, le troisième plan, c'est ce que j'ai appelé la relation au territoire qui nous entoure. Parce que l'autonomie, c'est vivre de nos propres ressources, et ça implique quelque part une forme de relocalisation de relocalisation de l'économie, de notre vie, d'arrêter de se dire que plus on dépend de choses éloignées, plus c'est émancipateur. Non, en fait, ça crée des dépendances asymétriques et c'est tout. Donc, il faut relocaliser pour essayer de faire le plus de choses qu'on peut sur la base des ressources locales. Et donc, ça suppose deux choses. D'abord, ça suppose que ces ressources soient accessibles. Et donc, ça suppose, en fait, de critiquer et de remettre en question l'accaparement des ressources. Et donc, l'outil juridique de l'accaparement des ressources depuis les débuts du capitalisme, c'est la propriété privée. En fait, il faut bien voir, moi, je suis pas contre l'idée que y ait des formes d'espace privé, d'espace sur lesquels on ait un accès privilégié, où on puisse faire des choses sans avoir à demander l'aval d'un collectif, etc. Notamment, en fait, toute personne qui fait son potager, c'est le plaisir qu'il peut y avoir à faire son potager tout seul aussi, pour pas avoir à demander à 20 personnes ou à attendre le dimanche à l'AG pour savoir si on a le droit de mettre du persil ici, d'enlever tel arbre qui fait de l'ombre à telle plante, etc. Voilà, d'avoir son lopin de terre, ça a été une revendication de plein de paysans à plein d'époques. Et donc, d'avoir des parcelles en usage privé, bah, c'est aussi important pour les paysans que d'avoir une habitation à soi, une chambre à soi, pardon pour le, j'ai pris le mot espagnol, d'avoir une chambre à soi, comme moyen d'émancipation, pour les femmes. Une chambre à soi, un champ à soi, je dirais, c'est très bien. Mais ça implique pas la propriété privée à proprement parler. Ce dont on parle, c'est un usage privé, c'est un endroit où, mais ça implique pas forcément d'être le propriétaire au sens moderne. J'ai pas développé ce que c'est que la propriété privée moderne. Elle est basée sur la marchandisation et pas sur l'usage. Moi, je parle de propriété d'usage. Un accès privilégié à des endroits dont on n'est pas propriétaire, au sens où on a le droit de le vendre à qui on veut, mais qui nous est concédé par une communauté, donc qui fait partie de biens communs, mais sur lesquels on a des droits particuliers. Et par ailleurs, pour l'autonomie, même si on concède aux familles, aux collectifs, voire aux individus des espaces, voilà, privilégiés, où ils peuvent cultiver certaines parties de leur autonomie, il faut bien voir que l'autonomie matérielle au cours d'une vie, ça présuppose l'accès à des ressources extrêmement différentes. Et il est totalement improbable que sur le même lopin de terre ou le même terrain, on puisse trouver toutes les plantes médicinales qui nous soignent de toutes les maladies possibles, ou on puisse trouver tous les types de ressources, etc. Par exemple, je fais ma maison, bah on a besoin de certaines pièces de charpente. Et ces pièces de charpente-là, on les trouvera pas forcément sur son terrain, on les trouvera dans le bois d'à côté. Je fais ma maison, je fais des enduits en terre, il me faut de l'argile. J'ai pas forcément une veine d'argile. Mais par contre, s'il y a des biens communs qui sont respectés en tant que tels, des communaux, c'est des prairies, des bois, des marais qui restent en libre, qui ne sont appropriés par personne et où tout le monde a libre accès, eh bien là, je vais trouver de l'argile, des pièces de charpente qui correspondent à mes besoins et des compléments de ressources en termes de champignons, de gibier, etc., qui viennent compléter ce que je peux avoir. Et donc je pense que l'autonomie, ça présuppose ça. Ça présuppose de cultiver des biens communs, de retrouver des formes de redévelopper les biens communs, redévelopper les communaux, et ça, le mouvement en est tout à fait conscient puisqu'il le fait lui-même. L'autre chose qui est parfois un petit peu plus compliquée à faire comprendre, c'est l'ancrage local. Et c'est de plus en plus compliqué parce que bah, l'extrême droite est en train de se réapproprier ce genre d'idée-là. Mais moi, je pense qu'il faut être ferme, il faut pas tout lâcher à l'extrême droite. C'est pas parce que il faut pas faire avec le local ce qu'on a fait avec l'identité, d'abandonner à l'extrême droite, les thématiques, les questions d'identité, de régionale ou locale. Il faut accepter que l'autonomie, ça implique un enracinement local. Ça implique l'idée de se dire que ce qui est bien, c'est pas forcément ce qui est valable partout dans le monde. C'est pas l'uniforme, l'universel, c'est pas l'uniforme. L'autonomie, c'est plutôt une idée que le bien, c'est ce qui est adapté aux conditions de notre région. Et donc, si les principes de l'autonomie, ils sont universels, je pense, la non-domination, se charger de nos propres nécessités, revisiter nos besoins, repenser les techniques, etc. Si tous ces principes, ils sont totalement universels, néanmoins, les formes de vie autonomes, elles seront toutes, partout, complètement différentes, parce qu'il va falloir composer avec les ressources locales, donc les gens aussi locaux, les traditions éventuellement locales, ce qui implique pas de, ce qui ne ce qui n'interdit pas de les réinventer, de les critiquer, et de les modifier. Mais voilà, le mode de vie autonome, c'est un mode de vie qui est partout différent, d'où la phrase des apatistes, le monde dont nous rêvons, c'est un monde dans lequel qui est fait de mondes différents. Un des problèmes à un autre écueil majeur dans la construction de l'autonomie, c'est le fait que, ben, on a vu, l'autonomie, c'est collectif, c'est même social, c'est un rapport social au monde. Mais en fait, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus faire avec les autres. Et quasiment même, ce dont on a voulu être délivré, ce dont les libéraux voulaient nous délivrer, c'était pas seulement des nécessités matérielles de la vie, c'était des nécessités sociales, la nécessité de s'organiser avec les autres. Notre monde capitaliste, il tient son succès aussi du fait qu'il nous a délivré de la nécessité de supporter les autres au quotidien et de nous organiser avec eux, parce que c'est compliqué. Ça suppose du conflit, ça suppose de faire des compromis avec des gens dont on peut estimer que ce sont de parfaits imbéciles, ça suppose des tensions, etc. Et il y a plein de gens, par exemple, qui ne veulent pas s'intégrer dans les collectifs politiques, notamment parce qu'ils n'ont pas envie de tout ça. Ils n'ont pas envie des réunions interminables, ils n'ont pas envie des conflits, ils n'ont pas envie des compromis, ils préfèrent rester tout seuls chez eux, tranquilles. Mais la subsistance, ça implique du social, du collectif. Et donc, voilà, il va falloir sortir de notre hantise du conflit pour recréer des collectifs de subsistance et donc d'être capable de réapprendre à faire avec les autres, de réapprendre à être capable d'entrer en conflit ouvert avec certaines personnes sans que ça fasse forcément exploser le collectif. Il va falloir retrouver, en fait, il va falloir retrouver une culture du conflit contre deux choses, contre, d'une part, la hantise du conflit qui fait qu'on garde sur soi, on garde sur soi, et puis au bout d'un moment, ça explose, et puis là, c'est trop tard, et contre la tendance à l'escalade dans le conflit. Une culture du conflit, c'est d'accepter, c'est normal, en fait, on est tous différents, on a des avis divergents, il y a des conflits, on peut s'engueuler, mais ça ne doit pas impliquer, ça ne doit pas forcément conduire à l'explosion des collectifs de subsistance. Le plus important dans la subsistance, c'est une formule un petit peu paradoxale, c'est de réussir à assurer la subsistance des collectifs qui assurent la subsistance. Et de fait, c'est le plus gros problème. Tous les gens qui se lancent dans cette histoire d'autonomie le savent très bien. Un des plus gros problèmes, c'est le PFH, le putain de facteur humain, la conflictualité dont on a tellement envie d'être délivré, mais dont on ne peut pas se passer dès qu'on fait des choses ensemble.